Je parlerai brièvement de ce livre et surtout de quelques témoignages, comme le sujet du colloque le souhaite, de passage. Donc j'habite Grimaldi, qui est le village d'où le sentier du Pas de la Mort, que pour la police française de l'époque s'appelait le sentier de la Gironde. C'est le même, c'est exactement le même. Et donc, je suis confronté à ce passage depuis que j'y habite. Je suis sicilien, je tiens à le dire. À quel sens? Je ne suis pas comme les Corses, non, je suis fier, pas du tout. C'est parce que si j'habite à Grimaldi, c'est parce que je voulais vivre à la frontière. Comme quelqu'un l'a remarqué ce matin, l'a fait état d'un témoignage d'un grand photographe, ça aide à voir mieux certaines choses. Voilà. Et puis, bon, ma passion pour la France faisait en sorte que quand j'étais dans la région de Venise où j'habitais, la France me manquait. Voilà. Donc, depuis que je suis là, depuis 30 ans, je suis un témoin. Et je suis convaincu en plus que les lieux, c'est banal ce que je dis, ont une mémoire. Il suffit d'aller creuser et la mémoire ressort. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, mon livre, c'est un livre sur le passé, l'histoire de cette frontière et de ce passage, des déplacements de cette frontière, parce que la frontière n'a pas été toujours là où elle est, au Pont-Saint-Louis. Dans la signification de la notion de frontière là-bas, il y a eu des moments où elle était plus facile de passer, d'autres où la frontière était carrément militarisée. Et aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui. Donc, de ce fait, je suis devenu une sorte de point de repère pour les gens qui veulent en savoir plus. Et ce n'est pas le hasard. Ce matin, on a cité Raphaël Kraft et Baudouin. Voilà, ceux qui ont lu ces livres savent quel rôle d'informateur j'ai pu jouer à leur égard. Samedi prochain, j'ai rendez-vous avec un écrivain de Florence qui fait un livre sur le dernier Italien mort au Pas de la Mort. C'était un jeune boulanger de Florence, de Bagno a Ripoli, à côté de Florence, dont le cadavre a été trouvé le 1er janvier 1962 dans le jardin de M. Delerue. C'est là où les gens habituellement tombaient. Et le Pas de la Mort, le cadavre a été trouvé là au bout de 15 jours, donc un très mauvais état. Et c'est le dernier Italien. Mais après, il y a eu d'autres Yougoslaves, notamment des Hongrois, mais surtout des Yougoslaves. C'est en ce moment que la presse italienne a décidé d'appeler ce passage le Pas de la Mort. Avant, ça s'appelait d'une autre façon. Donc, c'est une invention de la presse. Et ça a eu du succès. La preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, on l'appelle comme ça. Donc, dans ce livre, je cherche à montrer aussi par l'intermédiaire de... Parce que c'est quoi ce livre? C'est... Moi, je nais comme essayiste. Donc, il y a ce côté de recherche historique. Mais après, je me suis occupé un peu de littérature, donc de narrative, de roman. Donc, il y a les deux. Et mon éditeur m'a dit, mais écoute, mais c'est un essai. C'est un reportage, c'est évident. Un reportage fait non pas par un journaliste qui vient d'ailleurs, mais un journaliste qui est là-bas. Et donc, en parlant de la frontière, j'aime bien relater certaines... anecdotes, par exemple, le fait que je suis venu à connaissance que le très jeune Curzio Malaparte, à l'âge de 16 ans, quitte avec quatre amis son lycée, des lycéens, il était au lycée, pour aller combattre avec la France. C'est à 14, l'Italie est neutre, donc il décide de rejoindre qui ? Les petits-fils de Garibaldi qui sont en France, qui veulent mettre en place une légion garibaldienne qui libérerait Trieste en tant qu'Italien. Une grande expédition comme le héros niçois aurait fait peut-être. Voilà. Et donc c'est dans ce but qu'ils cherchent à venir à Menton, mais la frontière est bloquée parce que l'Italie formellement est encore alliée à l'Autriche. Donc on ne peut pas admettre que des Italiens aillent combattre contre les alliés. Et donc, il passe par le Pas de la Mort. Et ainsi de suite. J'ai plein d'anecdotes comme ça. Par exemple, le fait que que Primo Levi, Auschwitz, comme il raconte, il connaît un jeune Alsacien, Piccolo, qui l'aide dans le transport du rabiot. Et puis Piccolo lui dit, Levi, mais tu es italien, je crois. Je dis, oui, l'italien, ça doit être une belle langue. Parle-moi dans ta langue. Et l'autre, il récite le chant de Ulysse de la Divine Comédie de Dante. Et l'autre, c'est beau, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui explique. Et puis les Russes arrivent et ils sont libérés, mais ils n'ont pas de quoi s'échanger les adresses. Ils n'ont pas de stylo. Donc ils se perdent de vue. Et puis par miracle, ils se retrouvent. Parce que Piccolo, l'Alsacien, lui dit, écoute, je vais passer les vacances en 1947, donc 2 ans après, à Nice. J'aimerais bien te voir. Et Levi, qui venait d'acheter une Lambretta et qui était à Rapallo, lui dit, oui, bien sûr, ou à la Fontaine au Pont-Saint-Louis. Donc, ils se donnent rendez-vous, ils se voient, mais il y a 2 bars et ils n'ont pas de passeport. Donc, ils se parlent d'un côté à l'autre de la frontière. Voilà. Pour en finir, par exemple, une anecdote qu'aux Italiens ne disent rien, mais qui parlent au français, les avions renifleurs. L'histoire des avions renifleurs s'achève où? Au torrent Saint-Louis, à Grimaldi. Bon, je ne vous en dirai pas plus parce que ce n'est pas le sujet. Pour en arriver donc aujourd'hui aux migrants, à leur motivation, aux no-borders, aux solidaires, etc. Pour ce qui est des témoignages, j'en ai un de 44, dénommé Mion. Imaginez un Italien, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de le traduire. Je crois qu'en gros, j'ai connu la fille de ce Mion et qui m'a raconté du côté de Belluno, donc dans le nord de la région de Venise, dans le Dolomite. Mi racconta ça. Avevo poco più di 20 anni. Mio papà Augusto, impegnato nella resistenza nelle montagne del Bellunese, era braccato dalla Wehrmacht, che minacciava rappresaglie contro i familiari e in particolare contro mia mamma e me. Per proteggerci, decise di portarci in Francia. Partimmo nel febbraio 1944. Scendemmo in treno a Bordighera, dove in una chiesa incontrammo alcuni frati che ci presentarono una ragazza che ci avrebbe fatto da guida, passeur. Ci recammo a piedi a Ventimiglia. Faceva molto freddo. Attraversata la città, giungemmo a Grimaldi verso le 8 di sera, dopo aver salutato con molta faccia tosta le sentinelle tedesche che si trovavano all'inizio del paese. Alla fine dell'abitato, invece, c'erano 2 ostacoli pericolosi, i doganieri e i carabinieri. La ragazza ci fece nascondere in un fossato e si mise alla ricerca di un ragazzino che avrebbe sorvegliato le 2 caserme. Il buio era fittissimo. Dopo 1 ora di attesa snervante, la nostra guida ritornò, ma senza il ragazzino. Si erano fatte le 10, prendemmo la decisione che se fossimo stati scoperti, io e mia mamma ci saremmo consegnati, mentre papà avrebbe cercato di mettersi in salvo. Ci togliemmo le scarpe e riprendemmo la marcia. Dopo essere passati con estrema prudenza davanti alle caserme, vedemmo le luci di Mentone e non riuscivamo a contenere la gioia. La nostra terra promessa era ormai a 2 passi. Avevamo purtroppo fatto i conti senza l'oste, poiché le nostre traversie erano tutt'altro che finite. La ragazza ci avvertì che il cammino si faceva pericoloso. In effetti, dovemmo marciare in fila indiana, prima su un sentiero strettissimo a fianco di una roccia ripida e poi su una canaletta larga 40 centimetri dove scorreva un sottile filo d'acqua. Nel fondo del precipizio c'era un corpo di guardia francese. Sopra ce n'era uno tedesco, dietro di noi c'erano i carabinieri. Ad un tratto la mamma mise un piede in fallo e precipitò per 20 metri. Tremando dal terrore ci mettemmo a chiamarla con voce sorda e smorzata. Finalmente rispose, eccetera, eccetera. à l'aube, ils arrivent à Menton. Voilà. Je vous cite ça parce que ce ne sont pas les seuls, mais pour deux raisons. D'abord, le papa, arrivé en France, il continue la résistance dans la région de Bordeaux. Et après la guerre, il mettra sur place une entreprise de maçonnerie. Et il sera un des constructeurs les plus accrédités auprès du Corbusier. Beaucoup des travaux du Corbusier seront faits par le papa. Oui. Et l'autre raison, c'est que ce canal dont on parle, il est emprunté encore aujourd'hui par les migrants. Il y a quelques semaines, il y a eu un migrant soudanais qui est resté bloqué. Et le ravin est important, hein, c'est même 60-70 mètres. Et les sapeurs-pompiers italiens ne sont pas arrivés à le sauver. Il a dû attendre toute la nuit. Et seulement le lendemain, les sapeurs-pompiers de Nice sont arrivés avec un hélicoptère et l'ont sauvé. Je passerai un témoignage. Je vois le temps que j'ai. Oui, un autre témoignage, toujours en italien, de quelqu'un de Ventimiglia, dans l'après-guerre. Voilà ce qu'il raconte. Donc, à l'époque, il est très jeune. Je crois qu'il a 7 ans. Avec sa maman, ils veulent aller à Menton. Il s'adresse à un passeur. Un passeur, dietro pagamento, li porta un mattino nelle campagne di Grimaldi. Là, c'est moi qui parle. Li fa entrare in un casolare, raccomandando loro di non uscire per nessuna ragione al mondo. Giunta dopo un'interminabile giornata la sera, l'uomo ritorna e il gruppetto si mette in marcia al lume della luna ed accompagnato dai latrati dei cani lupo che facevano da guardia assieme ai poliziotti. Bisognava procedere con grande cautela. Anche il rotolio di un sasso avrebbe potuto attirare l'attenzione dei gendarmi. Et alors là, je donne la parole à ce jeune homme. Il passeur non diceva una parola, ma al bisogno ci aiutava senza farcelo dire. A un certo punto rimasi quasi in bilico su una punta di roccia e mi sentii perduto. Colpa di una ciabatta che scivolò sul pendio facendo rumore. L'uomo si imbestialì e con la voce fra i denti mi disse: «Vuoi farci ammazzare?» Preso dalla paura, mi tolsi anche l'altra ciabatta e continuai la mia arrampicata scalzo. Mia mamma mi teneva per mano mentre io, facendo finta di niente, capivo e leggevo negli occhi il terrore di quei minuti che non passavano mai. Arrivati in prossimità del passo della morte, mi resi conto che non potevamo farcela, sia per il passaggio stretto, sia per l'altezza paurosa. Ma la guida che ormai non poteva farci cambiare strada, arrabbiatissimo ci disse: «Camminate adagio, non guardate di sotto, ma godetevi piuttosto Mentone, piena di luci». Il vento sibilava e pareva ci chiamasse dal profondo delle voragini. A un certo punto quel signore, che forse era più stravolto di noi, ci disse che il pezzo più brutto l'avevamo superato. Arrivammo presso un casolare illuminato dove il passeur ci fece entrare, presentandoci a una coppia di anziani che ci fecero riposare su due materassi. L'indomani mattina faceva ancora buio quando i padroni di casa ci svegliarono, ci offrirono un caffè e ci dissero: «Ora potete andare. Buona fortuna». Donc là, on était à la fin en 51. Et puis aussi la littérature. J'ai écrit un roman qui est l'histoire vraie, enfin inspiré d'une histoire vraie. Je l'ai écrit en français, ça s'appelle Le ventre du Python, mais il y a une édition italienne récente qui est là, qui s'appelle Il viaggio di Cunégonde. Et c'est une fille que j'ai connue en Côte d'Ivoire et qui était venue en Italie en passant par la voie de terre. Donc elle a quitté Dabou, pas loin d'Abidjan, pour arriver jusqu'à la Goulette à pied. Et le voyage a duré 3 ans. Donc c'est un voyage picaresque, parce qu'elle est en voie de toutes les couleurs. Elle trouve des diables et des saints. Et c'était aussi un voyage vers sa maturité. Parce qu'elle part, qu'elle a 18 ans, elle arrive, qu'elle est déjà une femme. Et là, donc, elle arrive à Palerme. Et puis à Palerme, entre-temps, elle arrive avec un enfant. Hein, un enfant. En cours de route, elle fait un enfant. Et à Palerme, elle trouve un jeune Français qui veut l'amener avec lui à Paris. Et il remonte la botte. Et puis ils arrivent à Vintimille. Donc je vous raconte, je vous lis le dernier morceau, celui du passage vers Menton. Au bout d'une dizaine de jours, nous arrivâmes à Vintimille, où pour le petit et moi se posa le problème de franchir la frontière sans visa. Le petit et son fils qui s'appelle Alain, comme un acteur dont même les Africaines étaient amoureuses. Jacques, c'était son copain, nous laissa dans un jardin public avec un coin aménagé pour les enfants. Et pendant que je faisais glisser Alain sur un toboggan, il se mit à la recherche d'un passeur. Il revint une demi-heure après avec un Algérien qui monta dans la voiture et nous conduisit dans un village perché attenant à la frontière. Nous garâmes la voiture à côté de l'église et jouant aux randonneurs, empruntâmes un sentier champêtre qui nous mena près d'un tunnel de l'autoroute. L'Algérien nous expliqua que, bien qu'étant encore en Italie, pour les douanes, on était déjà en France. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, j'ai vu ça, hein, ce genre de passage, disons, après la construction de l'autoroute en 71 jusqu'à Schengen. Un des passages était ça, exactement ce que je vais décrire. Il suffisait donc que Jacques retourne en voiture à Vintimille et qu'il emprunte l'autoroute en direction de la France. Quelques kilomètres après avoir passé la douane, il retrouverait le tunnel et à sa sortie, nous embarquerait tranquillement. Alain et moi. Facile comme un jeu d'enfant. Serrant Alain dans mes bras, je me mis à attendre la voiture, cachée derrière un buisson aux fleurs jaunes et odorantes. Juste devant moi, il y avait des falaises en surplomb sur lesquelles étaient gravées les traces incertaines d'un sentier qui conduisait, comme je l'apprendrai plus tard, au pas de la mort, le col où des centaines de clandestins avaient perdu la vie. Les lieux doivent avoir une mémoire, car l'angoisse me saisit. Une angoisse qui, au bout d'une heure, faillit se transformer en panique. Aucune des voitures qui filaient comme des flèches sur ma gauche ne s'arrêtait. Je cherchais à me distraire en suivant le mouvement paisible des bateaux qui entraient et sortaient du port de Plaisance de Menton au pied de la falaise. La lumière scintillante du ciel et le bleu foncé de la mer donnaient au paysage une allure de carte postale du genre Bon baiser de la Côte d'Azur. Les appointements que j'avais sous mes yeux, à la fois proches et distants, me firent penser au supplice de Tantale que j'avais étudié au lycée. Arriverons-nous un jour là-bas? Demandai-je à Alain, qui, sagement pelotonné sur mon sein, ne comprenait rien à ce qui se passait. Enfin, la voiture de Jacques s'arrêta au bord de l'autoroute. Au moment de monter, je remarquai que la paroi du tunnel était recouverte d'inscriptions en arabe, probablement des versets du Coran, des hurlements silencieux et, en tout cas, émis par des frères qui nous ont précédés, me dis-je, tandis qu'un pénible cortège d'ombres défilait dans mon cerveau. Mais la voiture s'était déjà mise à rouler à toute vitesse en direction de Paris.
Merci. Merci d'avoir fait revivre cette mémoire, hein, fondée bien sûr sur l'expérience du passage. Et si vous le permettez, avec l'accord d'Ivan, on évoquait tout à l'heure, et j'ai retrouvé ça dans mes archives, ce reportage donc diffusé à la télévision française. En revanche, j'ai plus la date, Ivan, je sais pas,
61.
61, que l'on va.
Vous voulez savoir, vous me demandez, hein.
Voilà. Est-ce qu'on a du son?
Et qui partent la nuit d'Italie pour passer en fraude la frontière française. Yougoslaves, Italiens, tous les clandestins prennent un chemin identique qui les mène ici en pleine nuit, dans cette forêt du No Man's Land au-dessus de Menton. Et à l'aube exténuée, ils aperçoivent les lumières de la ville. Alors instinctivement, ils suivent un petit sentier qui semble y conduire tout droit. C'est le sentier du pas de la mort qui se transforme tout à coup en ravin. Et parmi ceux qui tombent dans ce piège, quelques-uns, ils sont rares, parviennent quelquefois à se retenir à une souche d'arbre à des fils qui pendent. Ils ne peuvent plus qu'appeler à l'aide et attendre qu'une équipe de secours vienne les chercher. Et s'ils le peuvent, ils doivent ainsi, sans pouvoir remuer, attendre quelques heures suspendus dans le vide. Sinon, ils s'écrasent 100 mètres plus bas, tous au même endroit. Vous dirigez cette équipe de CRS,
oui,
vous avez entendu
CRS.
Vous avez entendu les appels, je crois.
Provenant du pas de la mort.
Le pas de la mort?
Le pas de la mort, c'est cette falaise entre les deux pitons, où il y a un grand pain, là.
Bon, est-ce que c'est assez fréquent? Je crois que le pas de la mort est assez réputé.
Oui, parce que les clandestins italiens ou yougoslaves essaient souvent de franchir la frontière par le pas de la mort.
Oui.
Ils sont attirés par les lumières de Menton, et c'est la raison pour laquelle ils passent par cet endroit-là.
Bon, je ne vais pas vous importuner longtemps parce qu'il faut que votre équipe se prépare et parte le plus rapidement possible. Mais que se passe-t-il d'habitude? Comment ça se passe? Vous êtes alerté par, je pense, des appels, des cris.
Des appels au secours, oui. Alors, ce sont les gens qui contrôlent les passeports, qui nous avertissent au PC. Et j'envoie sur les lieux l'équipe de montagne.
Bon, et ces cris ont été entendus depuis ce matin,
pas
assez tard,
oui, à 7 heures ce matin, oui.
Et comment ça se passe à ce moment-là? Toute l'équipe se prépare, elle part
sur les lieux, à peu près une heure. Alors en principe, elle essaie de joindre le clandestin, qu'elle essaie de ramener au pied de la falaise.
Bon, et l'opération prend combien de temps d'habitude?
Il faut compter une heure si les gens ne sont pas blessés.
Je crois que vous avez prévenu immédiatement les pompiers également.
Oui, les pompiers ont été avertis par nos soins également ce matin. Ils vont sûrement participer avec nous.
Ce sont les pompiers de Menton, alors?
De Menton, oui.
Qui sont également spécialistes?
En principe, nous collaborons d'ailleurs dans ce champ d'opération.
Deux hommes, deux clandestins ont été repérés. L'un des deux disparaîtra avant que les équipes de secours soient arrivées au sommet de la pique. En apercevant le casque des pompiers et les calots des CRS, le deuxième clandestin a resserré sa prise. Il se trouve à environ 10 mètres en dessous de ce fameux pas de la mort. D'en bas, un radio mène les opérations. Et le clandestin, rejoint par un CRS en cordée, va descendre ainsi en cacolet sur le dos de son sauveteur, tout au long de cet apic qu'il doit considérer à présent avec une certaine émotion rétrospective. Depuis 10 ans, le pas de la mort a tué une cinquantaine de clandestins. Alors vous pourriez vous demander, comme nous l'avons fait, pourquoi ne pas condamner ce sentier? Il suffirait de placer quelques mètres avant la pique quelques rouleaux de barbelés. Il y a 15 ans qu'on y songe. Espérons tout de même qu'il ne fera pas attendre qu'il y ait encore beaucoup d'autres victimes pour condamner définitivement cette route fatale.
Voilà, nous étions en 1961, donc hein, ça permet déjà de saisir, pour ceux qui connaissent peut-être mal, hein, la topographie du lieu. Hein, intéressant de voir aussi qu'à ce moment-là, on parle plus irrégulier, mais on parle de clandestin, hein, justement. Ouais. Hein, bon, il y a des tas de choses qui sont extrêmement intéressantes, hein, le commentaire, hein, en direct, hein, de la police, hein, qui décrit ses modalités d'intervention,
etc. Ce qui est intéressant, c'est le fait que le récit est un récit... c'est une histoire qui part de zéro, qui arrive à un
exactement.
Point d'aboutissement, qui est en fait une histoire qui réussit, quoi. C'est une interception qui a réussi.
Il est sauvé.
Il est sauvé, il est sécurisé, la police veille, la frontière est là et le journaliste est sur place. En fait, peut penser d'ailleurs on peut imaginer que cette archive a été fabriquée. Hein. Quand les pompiers tournent, on peut penser qu'ils tournent pour la caméra. Enfin, c'est l'image, quoi.
Oui.
On peut réfléchir ensemble à la manière dont l'image est faite, mais c'est effectivement un élément qui renvoie à un discours construit, journalistique construit.